Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
L'émission peut contenir des infos. Ça démarre à l'instant sur les chapeaux de roue, tout de suite,
ouais. Même.
Exactement.
Oui. François, à l'instant.
À l'instant.
À l'instant.
Pas à l'instant qui.
Non, pas à l'instant qui. Non, pas lui, là.
On faisait des jeux de mots comme oui. Ça, facile dans le temps.
Ben oui, à l'instant qui.
Je te rejoins à l'instant. À l'instant qui. OK. Ouf! Comment vas-tu, François?
On fait notre âge.
Ça à peine.
Va, à peine. Ça va et toi, mon
frère? Oui, ça va oui. Vraiment très, très bien.
Oui. Tu sais que, Simon, ça fait une mèche qu'on n'a pas salué les gens d'une de nos radios.
Oui, tu as bien raison à part de ça.
Oui, ça fait, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça.
Alors, saluons une de nos radios.
Oui.
Et les gens qui écoutent cette radio.
Absolument.
Ben, il y en a partout au pays, là, mais...
Oui.
Allons piquer une pointe du côté de...
Ah, du Grand Nord.
Oui, territoire du Nord-Ouest.
Oui, les territoires du Nord-Ouest, CIVR, la gang de Radio Taïga.
À Yellowknife.
Salut tout le monde.
Et puis, c'est écouté un petit peu partout, je pense, maintenant avec la magie des internets.
Oui, effectivement.
Puis écouter ça partout à travers le pays, le monde.
Oui, oh, je sais, j'ai reçu un courriel la semaine dernière de Hong Kong. Là.
C'est vrai? Qu'est-ce qu'il disait?
J'ai pas trop compris.
T'as pas trop compris?
Non.
C'est pas grave. Ça devait être un autre arnaque là, pour te dire que
il y avait
un riche qui était mort pour léguer sa fortune.
C'est ça, il voulait me léguer sa fortune.
Okay.
Ah, yes.
On va parler aujourd'hui d'autisme un peu plus tard.
Oui, parce que le mois de sensibilisation de l'autisme, ça s'en vient là.
Oui, le mois d'avril.
C'est le mois d'avril, oui.
Et puis, il y a une journée, il y a non seulement un mois, mais il y a une journée aussi dédiée justement à sensibiliser les gens à cette réalité-là. Et nous allons parler aussi de...
Francophonie, mon cher. Oui, le plan d'action pour les organismes francophones, ça devrait être annoncé à un moment donné, on ne sait pas trop, mais on va en parler avec Inès Lombardo.
OK. On se lance, de quoi vas-tu nous parler dans un instant, toi?
On se lance des rushs.
On se lance pas des roches, on se lance dans nos sujets.
Moi, je vais te parler de l'endettement sur les cartes de crédit qui grimpe un peu trop rapidement.
OK. Et on se lance d'entrée de jeu dans le vocabulaire. Techno.
Techno.
À connaître en 2023.
Un ordinateur.
Ça,
une disquette. 3.55.
Floppy disk.
Floppy disk.
Non, mais sérieusement, il y a des choses qui sont entrées dans le vocabulaire depuis quelque temps,
oui.
Puis on en entend parler, mais certaines d'entre elles, de ces choses-là, nous apparaissent plus ou moins claires.
Okay.
Je vais juste vous en expliquer quelques-unes aujourd'hui pour qu'on comprenne. Pourquoi je suis en train de trébucher les escaliers?
Ben.
T'as entendu? J'ai même échappé
mon téléphone. T'as même déboulé.
C'est
ça.
Alors, c'est ça. Pour qu'on comprenne un peu mieux ce dont il s'agit, à travers cette multitude d'informations qui nous arrivent. Alors,
on entend tellement de mots.
Oui, je vais m'arrêter à trois en particulier,
okay,
qu'on entend, mais vraiment beaucoup dans l'actualité ces jours-ci. Intelligence artificielle.
Oui, c'est moi ça.
C'est quoi? C'est toi? Ben oui, c'est artificiel. Écoute,
c'est évident.
T'es bourré de
mais c'est quoi? C'est quoi effectivement l'intelligence artificielle, Simon?
Ah, voilà. L'intelligence artificielle qu'on peut aussi appeler dans sa forme abrégée IA, IA, ben c'est tout simplement un secteur de la science informatique où on crée des programmes qui sont conçus pour reproduire le comportement des humains et leurs capacités cognitives.
OK.
Il y a rien d'intelligent là-dedans, là. Mais quand on dit intelligence artificielle...
C'est un programme.
C'est un programme informatique.
Ça, un programme
exactement.
Informatique.
C'est bien fait parce que on sert de formules complexes et on va puiser dans une banque de données impressionnante,
mm-hmm,
dans le cas qui nous préoccupe avec, par exemple, le ChatGPT et compagnie, on va puiser dans la multitude d'informations que renferme
Les internets. Uh-huh.
Et à partir de ces informations-là, on rend disponible justement, on synthétise dans une certaine mesure, okay, ou on réécrit ça pour rendre ça plus digeste aux internautes.
Ouais, parce que des fois, c'est un peu indigeste.
Mais qui dit intelligence artificielle,
oui,
dit quelquefois erreur aussi.
Effectivement. Effectivement, parce que tu poses des questions, mettons à ChatGPT, poser des questions sur la francophonie ou des choses comme ça qu'il connaît pas nécessairement, là. Pff, regarde bien les réponses que tu vas avoir.
Effectivement, l'intelligence artificielle, elle va chercher son information dans une grosse base de données qui s'appelle l'Internet. Mais, je sais pas si vous étiez au courant de ça, mais dans les Internets, il y a pas juste du vrai.
Non.
Non.
T'es pas sérieux.
Je le dis.
Je te crée pas.
Et ça arrive que l'intelligence artificielle hallucine. Oui, ils appellent ça des hallucinations d'intelligence artificielle.
Ah non.
Elle va nous rendre disponible de l'information qui soit est biaisée, fausse ou qui n'existe tout simplement pas, parce que en ramassant cette information-là, elle va justement rendre disponible, des fois, ça arrive, des affaires qui sont pas vraies. Alors, la morale de cette histoire par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que quand vous recevez quoi de l'intelligence artificielle, prenez pas tout pour du cash. Vérifier. Tu sais, on pense là, on remarque que dans plusieurs années, peut-être qu'à force de tranquillement pas trop vite s'entraîner, puis de, comment je dirais ça, savoir que ça c'est pas vrai, puis ça c'est vrai, probablement que l'intelligence artificielle va devenir plus, va s'améliorer.
Ouais.
Mais pour l'heure, on n'est pas encore là. Alors, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? Là, ChatGPT, c'est juste pour chatter avec, mais à quoi ça sert?
Ça va
reconnaître les images, on va lui rentrer 490 millions de chiens, par exemple, puis à un moment donné, elle va finir qu'elle va reconnaître ça a une queue, ça a deux oreilles, ça a un museau, c'est un chien. Tu sais, c'est ça. Alors, ça va servir à synthétiser la parole, poser des diagnostics médicaux. Ça, c'est ce qu'est l'intelligence artificielle. ChatGPT, ça m'amène à parler de ça.
OK.
ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. Mais GPT?
C'est quoi?
De qui c'est ça?
Hein? Ça mange quoi en hiver?
Ben, GPT, c'est une abréviation d'une expression anglophone qui s'appelle Generative Pre-trained Transformer.
OK.
Alors, c'est-à-dire, c'est un modèle de langage informatique qui est développé par une firme qui s'appelle OpenAI, Artificial Intelligence, et qui, ce langage informatique-là sert à entraîner des intelligences artificielles. ChatGPT en est une, mais il y a d'autres systèmes qui peuvent se baser sur GPT. Donc, c'est un langage dont on sert pour l'entraînement d'une intelligence artificielle. Et ChatGPT, on l'a dit, c'est un robot conversationnel, c'est-à-dire une intelligence artificielle avec laquelle on converse, et pour ça, le chat, là, tu sais, conversation. Et grâce à cet entraînement auquel elle a été soumise, ben, elle réussit. Écoute, quand on parle d'entraînement, là, c'est des milliards et des milliards de paramètres auxquels on a soumis cette intelligence artificielle pour que ChatGPT puisse répondre de façon autonome à des questions, traduire des contenus, rédiger des textes, etc. Et je vais conclure avec ce qu'on appelle le...
Juste une petite note que je voulais rajouter, c'est que l'intelligence artificielle n'invente rien.
Non, absolument pas.
Parce que tout est basé sur ce qu'on retrouve qui existe déjà. Tu sais, parce qu'on dit, tu peux créer un programme avec... Oui, tu peux créer un programme, mais c'est parce que la base de ce programme-là existe déjà parce que c'est de ça que c'est basé ChatGPT pour te former ton programme.
Et ça m'amène à vous parler
du
machine learning.
Du quoi?
Le machine learning. Parce que des intelligences artificielles peuvent être entraînées en amont, on va dire, avant d'être mis en opération.
Okay.
Mais pour qu'elles continuent à acquérir de l'expérience puis à s'améliorer tout ça, elles font aussi du machine learning. Vous vous souvenez? C'est de cette façon-là que... Non, mais c'est vrai, là. Elles réussissent à corriger leurs erreurs. Et c'est là, justement, que le machine learning entre en ligne de compte, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique qui vient parer aux erreurs ou aux biais ou aux problèmes qui peuvent survenir avec l'intelligence artificielle. Je vous donne des exemples de machine learning. Les auto-autonomes.
Oui.
C'est du machine learning, ça. Parce que, à force de circuler sur les routes, tranquillement pas trop vite, elle va acquérir de l'information qui va finir par faire comme, ça c'est comme un être humain qui apprend à conduire. Tant et aussi longtemps qu'il n'a pas vu de la neige sur le chemin.
Oui, oui.
C'est pas c'est quoi de la neige sur le chemin. C'est pas ça. Comment la voiture va réagir. Alors, ces programmes informatiques-là, grâce au machine learning, vont justement acquérir de l'information grâce à différentes formules. Elles vont donc être capables d'analyser de plus en plus de données, de bases de données qui vont être de plus en plus grandes. Quand je parlais tout à l'heure des véhicules automatisés, par exemple de Tesla, ils font ces véhicules-là du machine learning. Oui, elles ont déjà à la base été entraînées pour, si tu vois un poteau de lumière, fonce pas dedans.
Ouais.
Mais, à un moment donné, OK, il fonce pas dedans quand il est debout, mais s'il est en travers du chemin, ah, ben là, elle va avoir appris tranquillement pas trop vite que oui, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un lampadaire qui est pas planté debout, mais qui est tombé, et je passe à côté, tu sais, où je m'arrête.
Okay.
Alors, c'est ça. Voilà.
Vraiment intéressant. Rapidement, mon cher ami.
Ouais, 2-3 minutes.
Ouais, 2-3 minutes. Je vais te parler de l'endettement sur les cartes de crédit qui grimpent en flèche parce que moi, ça m'effraie un peu.
Ah oui, hein?
Oui, ben les données qui commencent à sortir, je trouve ça un petit peu effrayant. Equifax, qui est l'agence de surveillance du crédit, qui a constaté que la dette des Canadiens sur leurs cartes de crédit a augmenté plus de 15% par rapport à la même période un an plus tôt et a totalisé plus de 100 milliards pour la première fois. Hey, c'est du cash, ça, là. C'est énorme. Dans son dernier rapport trimestriel sur les tendances du crédit, l'agence qui indique que la dette globale à la consommation a augmenté au quatrième trimestre de 2022 de 6% par rapport à la même période en 2021. Les niveaux d'endettement non hypothécaires ont augmenté de 5,4% au quatrième trimestre, mais pour les milléniaux, cette dette a augmenté de 8,4%. Les effets de la hausse des taux d'intérêt sont pas encore pleinement ressentis par les propriétaires parce que bon nombre d'entre eux n'ont pas encore renégocié leur hypothèque, mais ça va venir, ça, là. Ça va venir. Les consommateurs sans hypothèque ont connu la plus forte hausse de défauts de paiement. Ça, c'est un petit peu inquiétant. Particulièrement les 18 à 25 qui étaient près de 31% plus nombreux que l'année précédente à manquer un remboursement sur une dette.
Et ça, tu traînes ça longtemps du moment où que tu commences à à traîner des dettes là, puis à sauter des paiements.
C'est ça.
Ça vient à un moment donné que quand les intérêts commencent à rentrer et tout ça là.
Effectivement, c'est inquiétant.
Pensez-vous pas à être obligé de faire des consolidations de dettes là, puis être obligé de vous mettre en faillite, des trucs du genre là. C'est évident qu'avec le contexte économique dans lequel on vit actuellement depuis la dernière année ou à peu près,
la hausse des taux d'intérêt, l'inflation, tout ça, ça en est rendu difficile. Pour beaucoup,
spirale.
Rejoindre les deux bouts. Alors, c'est évident que le crédit, ben, c'est là pour ça. Hein.
On s'arrête pour une courte pause et on revient dans un instant. Vous écoutez Peu contenir des infos. Restez branchés sur l'une des radios membres de l'Alliance des radios communautaires du Canada.
Cette émission peut contenir des infos.
François, le mois d'avril, c'est presque à nos portes. Hein? Dans quelques jours, le 2 avril plus précisément, il y a une journée entière qui va être consacrée à la sensibilisation à l'autisme.
Et Simon, pas seulement une journée consacrée à l'autisme, mais le mois d'avril au complet est destiné à faire de la sensibilisation sur le sujet auprès de la population à travers le monde.
Oui, et pour nous en parler aujourd'hui à l'émission Peut contenir des infos, on reçoit deux dames qui en connaissent énormément sur le sujet, faut le dire, puisqu'elles cumulent ensemble des décennies d'expertise en matière d'autisme auprès des personnes qui sont elles-mêmes des autistes, mais aussi auprès de leurs parents et je dirais même auprès des professionnels de la santé ou encore de l'éducation, par exemple, qui viennent s'enquérir auprès d'elles de conseils, de trucs, de choses comme celles-là.
En fait, elles en connaissent tellement, Simon, qu'elles sont les deux cofondatrices d'un centre d'expertise en autisme et même d'un modèle d'intervention qu'on appelle Saccade.
Alors, celle qu'on reçoit aujourd'hui, d'abord, il y a Madame Brigitte Harrison. Elle est elle-même autiste. Elle est travailleuse sociale. Elle est auteure. Elle a prononcé, écoute, de nombreuses conférences sur le sujet. Et on a également avec nous aujourd'hui sa collègue, Madame Lise Saint-Charles. Elle est aussi auteure sur le sujet. Elle a une expérience de plus de 40 ans en autisme dans différents rôles. Elles sont là avec nous au bout du fil aujourd'hui. Mesdames Harrison et Saint-Charles, bienvenue à l'émission Peut contenir des infos.
Eh bien, bonjour.
Bonjour. J'imagine qu'on vous a posé la question, évidemment, à de multiples reprises depuis le temps, mais pour monsieur et madame tout le monde qui sont pas nécessairement très familiers avec l'autisme, d'abord, c'est quoi l'autisme au juste?
L'autisme aujourd'hui, je vous dirais, on va parler que c'est un trouble neurodéveloppemental. Alors, ce n'est pas une maladie, mais c'est bien une condition. Ça veut dire qu'il y a des connexions qui sont différentes dans le cerveau et ça demande un effort cognitif qui est majeur pour les personnes autistes. Et ça va, par la suite, ça va leur apporter de grands défis, des défis qui sont, je vous dirais, plus connus, soit en communication ou en interaction. Alors, je vous dirais que ça a évolué avec les années, ça commence à être beaucoup plus clair maintenant par rapport à ce que c'est l'autisme.
Parce qu'au fil du temps, on n'a pas eu la même compréhension de cette problématique, si vous me prêtez l'expression, il y a peut-être, je sais pas moi, 50, 60 ans, et aujourd'hui, on en connaît évidemment beaucoup plus à ce sujet-là. C'est ce que vous nous expliquez, là.
Tout à fait. Si on recule dans le temps, je vous dirais que il y a eu longtemps de la confusion avec la déficience intellectuelle, il y a eu de la confusion, avec le trouble d'attachement, ça a passé par du trouble de comportement, ça, je vous dirais là que ça a touché beaucoup de phases.
Ça passait aussi pour de la déficience intellectuelle.
Énormément. Mm-hmm. Et maintenant, ça commence à être beaucoup plus précis, je vous dirais, et ça rentre dans les troubles neurodéveloppementaux.
Okay.
Et ça, c'est un grand pas quand on a plus cette connaissance-là à jour.
Madame Harrison, vous êtes autiste vous-même et fanatée, alors que certains reçoivent le diagnostic dès l'enfance ou même à l'adolescence. Vous avez reçu votre diagnostic alors que vous aviez 39 ans. Comment on reçoit un diagnostic comme ça à cet âge-là?
On parle d'une période, d'abord, où l'autisme n'était pas encore connu, du moins dans les milieux occidentaux francophones. Et il y avait une grosse confusion quand j'ai été diagnostiquée. Il y avait une grosse confusion entre la déficience intellectuelle, la santé mentale, les troubles de comportement et l'autisme d'abord et avant tout. C'est que quand le ménage a été commencé, je vais le dire comme ça, moi je fais partie des premiers adultes qui ont été diagnostiqués au Québec autistes sans déficience intellectuelle, autistes de haut niveau. C'est que j'avais pas de doute à l'époque, je vous dirais, je connaissais pas l'autisme du tout. Par contre, je fonctionnais plus. C'est un peu ça qui s'est produit avec le temps. J'étais en épuisement cognitif et je savais pas ce que c'était. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à être de moins en moins, ajustée au quotidien. Et j'en suis devenue suicidaire, comme beaucoup d'adultes d'ailleurs. C'est pas mal la chaîne qu'on suit quand on parle d'autisme. C'est que moi, on m'a envoyé chercher de l'aide, puis c'est comme ça que je me suis retrouvée avec le diagnostic en chemin. Là. C'est que je m'attendais pas à ça. Surtout que je savais même pas là, je connaissais pas l'autisme comme tel là, dans le temps.
Madame Harrison, comment on reçoit ça? Est-ce que c'est une délivrance? Est-ce que c'est une c'est quoi que, quand on reçoit un diagnostic d'autisme? OK, vous comprenez pas nécessairement ce que c'est, mais là, on vous dit vous êtes autiste. Est-ce que vous dites, enfin, je sais que j'ai un problème ou?
Quand on dit une personne autiste habituellement, puis ce que moi j'ai vécu est très fidèle à ce que la littérature rapporte. Quand on apprend qu'on est autiste, on apprend qu'il y a un mot qui est mis sur ce qu'on fait déjà. Ça fait que c'est un soulagement habituellement pour la personne autiste. La catastrophe arrive plus du côté des parents ou de l'entourage, mais pour la personne autiste, c'est un soulagement de savoir que il y a un mot pour ça, et c'est peut-être pour ça que les gens passent leur vie à dire de pas faire ci ou de pas faire ça. C'est que ça met le mot sur l'ensemble de ce qui est constitué par l'autisme, là, étant donné qu'on fonctionne pas du tout comme vous autres. Là. Fait que non, c'est soulageant pour beaucoup d'autistes, je vous dirais, et là-dessus, la littérature est claire. Là.
Le mois d'avril, c'est l'occasion de faire de la sensibilisation sur le sujet. Quelles sont les principales difficultés auxquelles les personnes autistes et leurs proches, bien entendu, sont confrontés dans la société d'aujourd'hui?
Je vous vous dirais que ça fait longtemps que ça traîne l'autisme et on est dépendant de la recherche sur le cerveau, ce qui fait que actuellement un des gros problèmes, c'est que les gens croient que c'est simplement une différence, alors que c'est une condition, l'autisme. C'est une condition qui a des effets physiques qui ne sont même pas connus au moment où on se parle par la majorité de la population. Donc, les gens ne savent pas toujours quel type d'aide apporter. Je vous dirais que c'est une constante. Et c'est ce qui apporte habituellement des défis majeurs. Puis, dans plein de secteurs, là, tu sais, on entend dans l'emploi, dans l'éducation, la vie familiale, l'inclusion. On pourrait nommer tous les aspects du quotidien. Et c'est ce qui fait que ça a des impacts, des répercussions partout, c'est que l'autisme même est très peu connu, commence à être mieux défini, mais on nage encore dans plein de mythes, dans plein de fausses croyances ou d'incompréhension du diagnostic là, présentement. Ça fait que ça apporte énormément de défis au quotidien. Là.
Les gens sont un petit peu maladroits hein, avec les personnes autistes et avec leurs proches. Je le sais parce que j'ai de mes proches qui ont une problématique d'autisme, qui ont ce qu'on appelle en langage court un TSA, un trouble du spectre de l'autisme. On connaît pas trop ça, on sait pas comment réagir avec ces gens-là. Ce serait quoi, selon vous, les meilleures façons, disons, d'aborder le sujet avec des personnes autistes, mais aussi avec leurs proches, leurs parents et tout ça, pour peut-être mieux comprendre leurs besoins et leur réalité? Comment on s'y prend?
Par la nature même de l'autisme, si vous posez des questions à l'autiste, vous allez avoir des réponses très claires, sans aucun problème. Souvent, c'est la personne qui est en face de nous qui vit mal avec l'autisme et non la personne elle-même. Ça fait que ça, c'est assez fréquent. J'ai déjà dit à un journaliste, moi, je porte la condition et vous portez le tabou. Ça fait que c'est un peu la réalité. Donc, quand on pose la question à une personne autiste, habituellement, on va d'abord s'assurer de bien communiquer avec la personne pour qu'elle puisse traiter l'information. Ça veut dire ne pas bouger pendant qu'on parle. Ça veut dire prendre des mots très clairs, des phrases courtes et des mots directs habituellement. Et laisser le temps de traiter l'information pour avoir la réponse. Habituellement, pour la personne, c'est assez simple de le faire là, quand on est face à une personne autiste. Quand on est avec les proches, par exemple, surtout avec les parents, habituellement, on va essayer d'avoir la même délicatesse qu'on aurait avec un parent d'enfant sourd ou un parent d'enfant épileptique pour être capable d'aller comprendre ce qui se passe. Mais on peut parler du sujet. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème. Beaucoup de parents sont soulagés à l'idée que des gens les abordent poliment pour être capables de comprendre. Ça se demande à quelqu'un, ton enfant semble avoir une condition, est-ce que je peux t'aider ou qu'est-ce qui se passe? Ça se demande, ça, poliment, et non pas en bousculant.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, parce qu'on en a parlé au début programme d'intervention SACAD, c'est quoi exactement SACAD et comment vous intervenez vous-même auprès des personnes autistes et leurs proches?
Je vous dirais que SACAD, oui, c'est un centre d'expertise en autisme dans lequel on donne toutes sortes d'aides, là, hein, que ce soit au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement, de la supervision de la personne autiste aux parents et aux professionnels. Mais la plus grande, je vous dirais, la plus grande découverte qu'on a pu faire, c'est de mettre en place le langage SACAD conceptuel et qui est une langue finalement qui permet de faire de la remédiation cognitive avec la personne autiste, ce qui va permettre à la personne autiste de mieux traiter son information sans s'épuiser et de l'amener ensuite à pouvoir mieux communiquer. Alors ça, c'est vraiment, je vous dirais, l'espèce d'avancée qu'on a pu faire avec notre modèle qui est bien sûr neurodéveloppemental, parce que pour nous, considérant que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental, c'était essentiel qu'on puisse mettre en place un modèle neurodéveloppemental qui n'existait pas avant. Alors donc le langage SACAD conceptuel, c'est un élément dans tout le programme, je vous dirais, là, mais dans lequel fait la différence chez beaucoup de personnes autistes, peu importe son âge, peu importe son niveau d'atteinte, si on veut, par rapport à sa structure autistique. Alors, c'est vraiment tout ça. Le travail qu'on fait pour la personne autiste, donc, c'est ça. Là, avec le parent, on va aider le parent à pouvoir mieux comprendre cette structure-là interne de l'autisme, donc être capable de comprendre quand son enfant fait tel geste ou tel mouvement, ce à quoi ça correspond à l'intérieur, donc comment le parent peut accompagner. Et ben, comme je vous disais là, juste avant, ben, on a à ce moment-là mis en place avec la clinique parce qu'on s'est aperçu que les parents voulaient apprendre, les professionnels voulaient apprendre. Donc, ce sont toutes les formations qu'on a construites. Il y a un parcours de formation pour les parents, alors qui est fait à leur portée, et on a un parcours de formation pour le professionnel aussi. On a beaucoup de formations qui sont en ligne. Avec la COVID, on a dû s'ajuster, donc on peut maintenant rejoindre les gens partout sur la planète là, où ils se retrouvent, et à ce moment-là, on peut aussi les accompagner, que ce soit la personne autiste ou le professionnel ou bien le parent, mais à distance tout le temps.
En conclusion, parce que évidemment l'entrevue tire à sa fin, si on veut avoir davantage d'informations sur l'autisme ou encore sur sa carte, j'imagine qu'on peut visiter votre site internet.
Oui, sur le site, la page Facebook, il y a tout. On est sur le YouTube aussi. Il y a des capsules qui sont accessibles aussi pour les gens peuvent voir rapidement ce qu'il y en est. Il y a des livres aussi qu'on a fait plusieurs.
Si vous tapez Saccade Autisme sur YouTube, vous allez avoir accès à un paquet de capsules gratuites expliquer l'autisme, expliquer un peu comment ça fonctionne et même le modèle, comment il fonctionne.
Alors, à quelques jours maintenant du mois de l'autisme et de la journée de sensibilisation à l'autisme qui va, on vous le rappelle, se dérouler le 2 avril prochain. On va inviter les gens, justement, à consulter ces informations-là. Mesdames Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour cette entrevue sur le mois de sensibilisation à l'autisme.
Bien, merci beaucoup de nous aider à faire connaître les besoins de la personne autiste.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci, c'est un plaisir.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
Simon, on a déjà abordé le sujet du prochain plan d'action pour les langues officielles, pour les organismes francophones, qui devait être dévoilé après l'annonce du prochain budget. Problème, c'est que le dernier plan d'action prend fin le 31 mars.
Ouais, et comme l'explique Inès Lombardo, qui est correspondante parlementaire pour Franco-Presse, ça engendre, soyons honnêtes, oui, des problèmes pour des organismes de la francophonie canadienne. On parle de compression, coupure de poste, du stress, de l'instabilité, ça va de soi.
Absolument. C'est pour cette raison qu'on a décidé d'inviter Inès avec nous aujourd'hui à l'émission pour en discuter plus longuement. Inès, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Déjà que c'est pas facile pour les organismes francophones, hein? On en rajoute encore un petit peu plus avec l'incertitude avant l'annonce du nouveau plan. Déjà des organismes qui ont dû procéder à des coupures de postes, déjà?
Oui, et il y en a, de ce qu'on sait, il y en a deux. Donc c'est la Fédération culturelle canadienne-française, qui a procédé à... Ben, ils ont préféré, en fait, arrêter deux postes. C'était deux analystes politiques. Parce qu'ils savent pas, en fait, s'ils vont être dans la mesure de les payer, vu que le 1er avril s'en vient. Mm-hmm. L'année financière commence le 1er avril. Donc, voilà. Et pareil pour la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Ils ont dû supprimer un poste. Voilà, ça, c'est ce qu'on sait, mais ça se trouve, il y a d'autres.
Il y en a probablement d'autres.
Ouais. Ce sont pas les moindres parmi les organismes, si je peux me permettre, parce que la FCCF et la FJCF, ce sont, je dis pas que les autres sont de moindre importance, c'est pas ça l'idée, mais je veux dire, elles ont, ces deux organisations-là, une aura de respectabilité. Donc, on peut présumer que si eux autres sont obligés de faire des coupures comme celle-là, il y a probablement des problèmes qui pointent à l'horizon pour d'autres organisations. Enfin, je présume, non?
Oui, ben, c'est ce qu'eux aussi pensent. Mais c'est que pour l'instant, oui, c'est ça l'une des grosses questions. C'est est-ce qu'on va pouvoir reconduire des postes, parce qu'il y a quand même des vies humaines derrière, des familles, etc. Mm-hmm. Et est-ce qu'on va pouvoir aussi retenir certaines personnes?
C'est ça, la rétention des employés à ce moment-là, quand on a comme une épée de Damoclès qui nous pointe au-dessus de la, qui nous pend au-dessus de la tête, là, on se demande, on va-tu avoir de l'argent pour payer notre monde? Ça devient problématique, effectivement.
Ah oui, tout à fait. La rétention de postes, en plus, c'est très complexe parce que c'est dans le milieu communautaire.
Oui.
Et l'une des intervenantes dans mon article disait que ils étaient pas certains de pouvoir retenir des gens. Ils leur en voulaient même pas de partir pour des postes mieux payés et où ils étaient certains de garder leur poste parce que ils sont pas suspendus à des plans d'action tous les 5 ans.
C'est pas évident non plus parce que là, tu as l'épée qui est au-dessus de toi, mais là, tu essaies de planifier l'avenir de ton organisme, puis tu peux même pas faire ça.
Non, en fait, on peut redemander au ministère, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Mm-hmm. Pour l'instant, aucune communication ne filtre, okay. Parce qu'en fait, d'après ce que le ministère m'a dit, ils ne savent pas, en fait, eux-mêmes, les chiffres. Ils attendent le budget fédéral qui tombe le 28 mars, et le plan d'action devrait tomber les semaines après, mais on ne sait pas, en fait, exactement. Donc, oui, il y a l'épée de Damoclès et les activités, les programmes, tout ça, pour l'instant, sont suspendus aux sommes qui vont être dans le budget et dans le plan d'action.
Parce que là, on ne connaît pas encore les crédits budgétaires qui vont être accordés au plan d'action.
Non, vraiment pas. Pas encore.
Incessamment, tu sais, c'est pas une date sur un calendrier, ça. Incessamment, ça peut être d'une couple de semaines, ça peut être, tu sais, je veux dire, tu t'es pas capable de budgéter avec ça, là. Qu'est-ce qu'on dit au bureau de la ministre Petitpas-Taylor de tout ça?
La réponse que le cabinet fait, c'est nous, on ne sait pas les sommes, on n'est pas au courant des sommes, et puis ces sommes-là devraient être reconduite et sont surtout, elles disent ça, mais c'est une hypothèse, devrait être reconduite, mais surtout ce qu'ils disent, c'est on n'a aucune idée de ce qui se passe, en fait. Donc voilà, c'est le message général. Et si vous voulez, ils disent aussi que c'est suspendu au cycle budgétaire, donc que ça dépend du budget. Donc ils disent attendre les sommes qui vont figurer dans le plan d'action, parce qu'elles figurent dans le budget qui tombe avant le plan d'action.
Mmh.
Voilà. C'est un peu complexe.
Est-ce qu'ils ont mis des mesures transitoires pour aider les organismes francophones en attendant le nouveau plan d'action?
C'est ce que disait Liane Roy de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA. Elle dit que généralement, Patrimoine canadien s'arrange pour qu'il y ait une sorte de pont qui soit fait entre deux plans d'action. Il faut savoir que deux plans d'action, c'est tous les 5 ans. Et ce problème chronique de « Ah, on est là l'année financière et les organismes ne savent pas comment gérer leurs finances », ce pont-là, c'est soit l'année du dernier plan d'action qui est reconduite, soit une partie du montant qui est reconduit pour une partie de l'année. Et ensuite, il y a des bonifications. C'est ce que dit Liane Roy, mais en fait, le problème reste le même quoi qu'il en soit. Les organismes francophones sont au pied du mur, dans tous les cas, malgré ce pont-là.
Et espérons que le prochain plan d'action, il y aura une indexation, parce que le coût de la vie a comme augmenté dans les dernières années.
Oui, c'est ce qu'espèrent vraiment les organismes francophones. Mais encore une fois, il n'y a pas de garantie pour ça.
Ouais.
Et en fait, ce qui est d'autant plus dérangeant, c'est que non seulement ils n'ont pas de garantie, mais en plus, ils n'ont pas de matière à être rassurés. C'est-à-dire que le cabinet de la ministre dit, bah écoutez, nous non plus, on ne sait pas, sur tous les plans. Donc, c'est compliqué de gérer ce stress-là et cette instabilité-là quand on n'a aucune communication qui peut au moins rassurer un petit peu.
J'essaie de comprendre un peu cette opacité ou enfin cette obscurité dans laquelle on nage actuellement au sein même du gouvernement. Tu sais, je veux dire, on pose la question puis on a de la difficulté à trouver les réponses. C'est vraiment bizarre, non?
Oui, ça soulève en fait des questions sur le rôle de la ministre des langues officielles qui, comme on sait, les finances de ce ministère-là sont gérées par le ministère de patrimoine canadien. Mmh. Et c'est vrai que elle est souvent en première ligne, la ministre Petitpas-Taylor des langues officielles, pour dire, bah, je ne sais pas, et c'est très opaque, mais on aura plus d'informations pour vous plus tard. Et, sauf que les organismes francophones du pays ne peuvent pas se permettre d'attendre, en fait.
Ouais.
Donc, voilà, il y a de l'embarras des deux côtés, en fait.
C'est pas un organisme francophone, ça a pas des finances infinies, là.
Moi, je veux pas faire d'éditorial et m'acharner nécessairement sur le compte de Madame Petitpas-Taylor, mais pour faire une analogie avec le monde du baseball, c'est un peu comme si on était rendu en 9e manche, qu'on a besoin du gros frappeur pour faire soit un circuit pour faire rentrer des joueurs au but, puis au marbre, c'est-à-dire, et qu'on envoyait le frappeur qui a peut-être la moins bonne moyenne au bâton. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je veux dire, on regarde ça, la situation actuellement, puis c'est un peu l'impression devant laquelle on se trouve.
Ouais. Oui, complètement. Puis c'est pas la première fois que ça arrive. Là, je veux pas non plus.
Non, on veut pas la mettre sur spot, mais
voilà,
non.
Mais en fait, c'est qu'elle s'est faite désavouer plusieurs fois par le gouvernement actuel. Il y a un an, dans le jugement des francophones de Colombie-Britannique, finalement, la Cour suprême a convoqué. le ministère de la Justice, pardon, a convoqué les francophones devant la Cour suprême, alors que le dossier aurait pu être réglé autrement. Voilà. Et donc, sur plusieurs sujets, la ministre Petitpas-Taylor va au front, oui. Et je, très sincèrement, je pense qu'elle, qu'elle est sincère dans son mandat, oui. Mais que...
Elle est juste mal briefée?
Mal briefé, non, mais je pense sincèrement que le cycle budgétaire est mal fait, dans le sens où, c'est ce que disait, en fait, c'est pas moi qui le pense, c'est les organismes qui le disent, c'est que, en fait, ils pourraient avoir des informations avant, et ils ne les ont pas.
Okay.
Et donc, c'est pas tant qu'elle est mal briefée, c'est que le système est fait comme ça, et que c'est chronique.
Mais le plan d'action devrait être annoncé 6 mois d'avance, 1 an d'avance. Ça n'a pas d'allure d'attendre que la nouvelle année financière commence et là, on annonce le plan d'action. Le temps que le plan d'action va être mis en place, écoute, on parle de semaines et de semaines et de semaines.
Oui, absolument. En tout cas, ça va être à surveiller. Merci beaucoup, Inès Lombardo. Merci. On aurait beaucoup aimé apporter des informations, plus éclairantes, ou non pas plus éclairantes, mais plus réjouissantes, mettons, pour les organisations francophones, les organismes. Mais, coudonc, ce sera pour une autre fois, comme on dit.
Une autre fois. On va tenter.
Merci.
Merci beaucoup.
On peut contenir des infos.
Simon, restons dans la francophonie, mon cher. On va se parler de locuteurs francophones en 2022.
OK.
On a parlé, on a fait le tour des continents la dernière fois.
Oui, c'est vrai, c'est
On va rentrer un petit peu plus dans les pays.
Ah, OK, parfait.
La France vient au premier rang, bien entendu, avec 66 millions. Mais c'est 97% de la population et... Je vais m'attarder sur le pourcentage plutôt que le nombre parce que j'ai trouvé ça intéressant. Le Congo a 51% de sa population qui parle français. La Belgique,
oui,
76%. La Suisse, 67%. Jusqu'à date, c'est pas trop des grandes surprises, mais le Cameroun, 41%. Et la Côte d'Ivoire, 34%, la Tunisie, 52% de sa population est francophone. Royaume-Uni, je pensais pas qu'il y avait tant de francophones que ça au Royaume-Uni, il y en a 16%.
Wow! Oui. C'est quand même très bon.
Ben oui, c'est quand même vraiment très bon. Le Maroc en a 36% et l'Algérie, 33%.
Hey, je regarde sur ta feuille, ça m'arrive de temps en temps, je regarde l'Allemagne.
Oui.
Étonnant quand même, 15% de locuteurs francophones en Allemagne, de gens qui... Wow!
Oui.
Ben, remarque, ils sont pas très loin de la France. Ça doit aider aussi pour le commerce, j'imagine, et tout ça.
Tout est à proximité, effectivement.
Ouais, la Suisse aussi, il y a quand même beaucoup de francophones.
Oui, puis l'Italie.
C'est ça. Et combien sommes-nous au Canada de...
On est 11 millions.
11 millions. Oui. Et ça représente à peu près le tiers de la population canadienne, grosso modo.
Grosso modo, oui, à peu près le tiers de la population.
Intéressant. Et ça, c'est des chiffres quand même assez récents, le 2022.
Ah oui, c'est 2022.
On vient de fermer la porte de l'année 2022.
Oui.
Très bien. On va marquer un temps d'arrêt et puis nous revenons dans un tout petit instant avec une autre portion de l'émission peut contenir des infos. Restez branchés. Et si jamais... pour une raison ou pour une autre, ça vous tente de, non pas nous chanter des bêtises, mais nous
vous pouvez le faire aussi, mais...
nous chanter des éloges.
On préférerait les éloges que les bêtises. Alors,
qu'importe les commentaires, allez-y, là.
C'est ça.
On n'est pas fait en bois ou on n'est pas fait en chocolat. On
n'est pas fait en bois.
Non, on n'est pas fait en chocolat.
On n'est pas,
fait
pas...
En...
Ouais, c'est
on fait en bois, ça c'est un autre département. Ouais, on n'est pas fait en chocolat et capable d'en prendre.
Oui, c'est ça. Merci, Simon.
Et c'est
l'adresse de courriel, c'est pcdi@radio.
C'est pas bien lapsus, pareil.
RFA.com. Oui, c'est un beau lapsus, mais... Il y avait juste pas d'affaires là.
Non, c'est ça. Tu sais, pas fait en bois, on sait ce que ça veut dire.
C'est ça.
Hein? Pas fait en chocolat, ça veut dire que t'es capable d'en prendre.
C'est ça. Voilà.
Pas fait en bois, c'est dans un autre département.
C'est un autre département qui est un petit peu plus...
C'est ça. C'est moins familial, mettons.
C'est moins familial, oui.
C'est ça.
Ça va moins avec l'émission.
C'est ça. On va s'arrêter pour une courte pause et nous revenons dans un instant avec la suite de Peut contenir des infos.
Cette émission peut contenir des infos.
13 000 kilomètres sans s'arrêter, sans manger. Serais-tu capable de faire ça, toi?
Non, j'aurais de la misère. J'avoue.
C'est drôle. Moi, tout, j'aurais comme un petit peu de problème. la vessie commencerait à...
Sans manger, c'est tel que tel, là.
Ouais.
Je suis pas un outre-mangeur, là.
Non, ouais, moi non plus.
Je suis capable
là.
De sauter quelques repas sans trop mm-hmm. de problèmes. Je ne vous encourage pas à faire ça.
Non, c'est pas une bonne pratique.
Mais la vessie, par exemple.
Oui, celle-là, il faut que... Boy. Non, c'est ça. Ben, c'est parce que je veux te parler d'un oiseau qui a battu le record du plus long vol sans jamais s'arrêter. C'est une barge rousse. Vraiment cute comme petit oiseau, avec un long, long nez.
Okay.
Très mince, très fin. Qui est âgé d'à peine 5 mois et qui est à...
5 mois?
L'oiseau a 5 mois,
cinq
oui.
Mois?
5 mois.
5 mois, 13 000 kilomètres?
Ouais, t'as une minute.
Qui okay, continue?
Bon, il a tout volé mon point.
Mais non, mais tu me dis ça, 5 mois.
Oui, 5 mois. Non, c'est, ça comme pas d'allure, là. Il me semble que tu commences à apprendre à voler à 5 mois, là, mais non. Ce petit oiseau a parcouru, tiens-toi bien, 13 560 kilomètres. Sans s'arrêter pour se reposer ou même se nourrir. Le trajet entre l'Alaska et l'État australien de la Tasmanie lui a permis de battre le record Guinness pour la plus longue migration sans escale d'un oiseau.
C'est capoté rare, là.
Parce que
non seulement tu fais une si longue distance,
uh-huh.
mais tu fais une si longue distance au-dessus de l'océan.
C'est ça l'affaire. On lui avait mis une petite puce 5G sur le dos,
ouais.
Qui nous a permis de voir où elle s'en allait.
Ouais, ouais, ouais.
Son épopée a commencé le 13 octobre dernier et s'est poursuivie pendant 11 jours et une heure sans que l'oiseau se pose une seule fois. Il a ainsi battu le précédent record établi par un autre oiseau de son espèce en 2020 de plus de 350 kilomètres. Cet exploit est notamment dû à un changement d'itinéraire soudain. J'imagine qu'il a consulté son agence de voyage et a dit...
Ou son GPS, il
oui,
dit
c'est ça.
Détour,
non, passe pas là, passe
crac,
à côté.
Crac à gauche un peu.
Son espèce a pour habitude de migrer en Nouvelle-Zélande.
Oh.
Mais notre petit ami a pris un virage de 90 degrés et s'est dirigé ainsi vers la Tasmanie.
Oh.
Pour voler sur de telles distances, la barge peut faire grossir son cœur et ses muscles pectoraux,
okay.
ses pecs, là, en plein vol, afin de fournir plus d'énergie d'oxygène à ces zones-là. Ah non, il est bien fait, là. Comme, il est vraiment bien fait.
Machine de course, ça, là.
Ouais, mais, hein. Notre record woman a eu la chance de survivre à son périple à travers l'océan Pacifique.
Oui.
De nombreuses îles où il semble, en tout cas, avoir laissé passer l'occasion de se ravitailler. Il a comme dit, ah, non, ça m'intéresse. J'ai hâte de loin ma blonde. Je vais arriver à la maison. Le responsable de BirdLife Tasmania, Eric Waller, a déclaré que l'oiseau avait probablement perdu la moitié ou plus de son poids corporel pendant le vol.
Ah, je croirais. Wow! 13 000 quelques centaines de kilomètres.
13 560 kilomètres sans t'arrêter. Ben, remarque qu'eux autres, c'est quand même pratique, là, je veux dire, question de vessie et tout ça. Là,
oui.
Comme ils peuvent faire ça.
Ils peuvent faire ça dans les airs.
Oui, ils peuvent faire ça en vol.
Je veux juste avoir un petit mot quand même d'encouragement pour celui qui a fait briser son record ou qui a été relégué
ouais,
au deuxième.
Oui, pour lui, oui.
T'es bon pareil.
Ouais,
t'es pas pire pareil.
À 13 000 kilomètres, t'étais quand même pas pire,
t'étais
mon grand.
T'étais quand même pas
oh,
pire.
Oui, t'avais fait une belle job.
T'avais fait une belle job.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et je suis impressionné, sérieusement. Ouais.
Effectivement.
On a passé dernièrement, il y a quelques jours, en fait, le 20 mars dernier, l'équinoxe du printemps.
L'équinoxe du printemps.
L'équinoxe du printemps. Et là, okay. Vous vous demandez... Je suis l'un de ceux-là qui se demande tout le temps, c'est quoi la différence entre un équinoxe et un solstice?
Uh-huh. C'est quoi la différence?
Sauriez-vous dire ce qu'est un solstice et ce qu'est un équinoxe? Es-tu même capable de... Tu sais, on arrive au 21 juin,
On sait que c'est le solstice.
Ben, on le sait. Attends un peu, là. Des fois, on les mélange.
Oui, non, c'est vrai. C'est
des
vrai.
Fois, on
oui,
dit,
j'ai entendu les deux.
C'est-tu le solstice?
C'est vrai, j'ai entendu les deux.
Alors, comme si de rien n'était comme ça, on va faire un cours aujourd'hui sur le solstice et l'équinoxe.
OK. Tu vas faire le professeur?
Je vais faire le professeur.
Peux-tu te lancer des effaces?
Non, ça va être correct. Et mets surtout pas d'épingle sur ma chaise, s'il te plaît, comme ça. Bart, là. Ça va être correct. Le solstice,
okay.
Ça vient du latin solsticium et l'équinoxe, ça vient du latin, et c'est pour ça particulièrement que je vais m'intéresser à l'équinoxe parce qu'on vient de passer l'équinoxe du printemps. Ça vient du latin equinoctium. Et je vais t'expliquer un peu ce qu'est l'équinoctium tantôt. Et là, vous allez comprendre pourquoi ça porte ce nom-là et comment faire la différence.
Okay.
Ces deux phénomènes qui sont liés à l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil.
Okay.
Tu sais que la Terre est inclinée légèrement sur son axe.
Mm-hmm. Hein?
Et si elle était droite, faites à noter,
oui.
Si elle était droite, la durée du jour et la durée de la nuit seraient toujours de la même longueur.
Okay.
Tu comprends? Parce qu'elle serait droite
ben oui.
dans les airs.
Elle bougerait
alors,
pas, oui.
Forcément. Mm-hmm. Voilà. Mais comme elle est inclinée un peu sur son axe, ça fait que les jours et les nuits ne sont pas nécessairement toujours de la même longueur.
Okay.
Ça rallonge puis ça raccourcit.
Ben oui.
Alors, le solstice d'été qui survient le 20 ou le 21 juin, c'est le jour le plus long dans l'hémisphère nord, de notre côté.
Le jour le plus long ou de clarté.
Oui, c'est ça.
Okay.
La plus longue période de clarté. On ne voit pas okay. nécessairement le soleil, là, parce qu'il
ouais.
est masqué par les nuages, tout ça, mais la durée du jour la plus longue dans l'année mm-hmm. survient le 20 ou le 21 juin à ce qu'on appelle le solstice d'été. Et c'est à ce moment-là que l'axe de rotation de la Terre pointe le plus vers le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on a
okay.
une journée la plus longue au mois de juin.
Okay.
Et à l'inverse...
Après ça, on s'éloigne.
Exactement! Okay. T'es pas pire! Hein? Le mois de juin, à partir de ce moment-là, le jour commence à raccourcir tranquillement, pas trop vite, jusqu'à l'équinoxe. Et, tu sais, ce que je te disais tantôt, équinoxe, equinoctium, ben, ça veut dire égal à la nuit. Comprends-tu?
Égal à la nuit.
Ouais, equal, égal, noctium, la nuit. Donc, le printemps et l'automne, comme là, on vient de passer le 20 mars, on vient de passer l'équinoxe du printemps.
Okay.
L'automne, au mois de septembre, on va avoir l'équinoxe de l'automne.
Oui.
Le jour et la nuit sont à peu près d'égale longueur.
Oh!
Aha! Et c'est à partir de ce moment-là que les jours rallongent.
Oui.
Jusqu'à arriver au solstice d'été.
Okay.
Après, ça repart de l'autre bord. Jusqu'à
ça,
temps qu'au mois de septembre, on soit égal.
Okay.
Puis après ça, ça redescend jusqu'au mois de décembre. Là, on est au solstice d'hiver. La journée la plus courte de l'année est le 21 décembre.
Oui.
22. Puis après ça, on repart à longueur. Vois-tu ce que je veux dire?
Oui. Mais sais-tu, je me suis jamais arrêté au solstice, pas au solstice, mais...
À l'équinoxe?
Oui, à l'équinoxe du printemps, pour voir si effectivement la clarté et la noirceur étaient égales.
C'est à peu près semblable. Mmh. C'est à peu près semblable, à quelques minutes près, ouais, on s'entend, ouais, là, mais au moment où survient le 20 mars, comme de cette année, le 20 mars, au moment où est survenu l'équinoxe printanier, en principe, la durée du jour et la durée de la nuit sont à peu près d'égale longueur. Et c'est encourageant parce qu'on va gagner encore plus de lumière jusqu'à temps où depuis le mois de décembre qu'on gagne en éclairage.
Oh oui,
là.
Oui.
Hein, depuis
on
que
le voit, là.
Hein, on le voit, oui, on le voit.
On le voit, on le sent aussi.
Et ça va culminer ce moment-là où les jours vont continuer à s'allonger jusqu'à ce qu'on arrive au mois de juin. Le 20 ou le 21 juin, là, c'est généralement dans ça. Alors, à ce moment-là, ça va être la journée la plus longue de l'année et les journées vont commencer à raccourcir pendant tout le reste de l'été.
Pour atteindre au mois de septembre l'égalité.
Exactement.
Et là, je vais me souvenir, Simon, on va tous se souvenir, d'ailleurs, que au mois de septembre, faut sortir nos mondes pour voir, c'est-tu vrai que c'est égal?
Alors,
je
ne
vais
c'est
pas
ça.
Rester debout 24 heures, là, mais...
Voilà. Alors, durée du jour et durée de la nuit égale au mois de mars, égal au mois de septembre, ou grosso modo, oui. Là, à quelques minutes près, et jour le plus long au mois de juin, jour le plus court au mois de décembre.
Oui.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour l'affaire de ce qui est l'heure, l'ajustement de l'heure, si vous voulez avoir un truc pour savoir est-ce qu'on avance ou on recule l'heure, il y a une espèce de dicton en anglais ou un proverbe qui dit que fall back
oui. spring forward.
Alors au spring, au printemps, on avance l'heure.
C'est ça.
Et pour arriver à l'heure avancée ou l'heure d'été. Et l'automne, quand on arrive le moment de retourner à l'heure normale, là, si on veut, là. Alors là, comme c'est fall, on recule par en arrière et alors on recule l'heure. Dis-les pas que vous apprenez rien dans cette émission-là.
Non, effectivement.
C'était très scientifique, j'en conviens.
Merci, monsieur le professeur. Honnêtement, là, tout ce que tu nous as appris aujourd'hui, je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours, monsieur le professeur.
C'est ça, oui, je suis convaincu de ça. Non, mais sérieusement.
Quand je vais gagner un Oscar, je vais vous mentionner.
Merci, Simon, qui m'a parlé de solstice et d'équinoxe. Non, je sais que c'est lourd un petit peu comme information.
C'est pas lourd, c'est intéressant.
Mais c'est ça. Alors maintenant, vous savez qu'au mois de mars, équinoxe d'automne, équinoxe du printemps, solstice d'hiver, solstice d'été. Il y a pas de soin. Puis en passant, ça survient à peu près tout le temps même temps.
Ouais,
c'est 20-21 juin pour solstice d'été, là, celui qui s'en vient. Là. Mettez pas ça le 24 ou le 25,
non.
Ça n'existe pas. Là. C'est pas immuable, mais...
Comme on dit souvent, Simon, on va se coucher moins niaiseux.
Exactement. J'espère que vous avez apprécié notre émission de cette semaine. Vous avez des choses à nous dire, ne vous gênez jamais.
Jamais. Oui.
Vous nous écrivez à
pcdi@radiorfa.com.
Et on lit tous les messages que vous nous envoyez.
Oui.
On en prend connaissance.
On les imprime toutes. Et le soir, on part avec et c'est notre lecture de chevet.
Oui, c'est vrai, tu fais ça, toi?
Je pensais que c'est ça que tu faisais.
Ben non, je fais pas ça. L'excuse. On se retrouve la semaine prochaine.
Bye, bonne
soirée. Une autre édition.